Merci d'écouter RFI et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est midi en temps universel et 14h ici à Paris.
RFI midi.
RFI midi, la suite avec le journal de Paul Lonsin-Spinelli. Bonjour Paul.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Le président de Russie se fait attendre en Corée du Nord.
Vladimir Poutine doit se rendre chez son allié nord-coréen pour la première fois depuis 24 ans. Son arrivée a été retardée, mais le déplacement aura pour objectif de renforcer les liens qui unissent les deux pays honnis par les Occidentaux. Un accord de partenariat pourrait être signé au cours du voyage. Alors que la guerre à Gaza ne faiblit pas en intensité, des manifestations d'ampleur sont prévues toute la semaine en Israël pour demander le départ du gouvernement de Benjamin Netanyahou et réclamer le retour des otages retenus dans l'enclave palestinienne par le Hamas. Sami Boukhelifa, notre correspondant, a suivi le rassemblement à Jérusalem hier soir. En France, le Rassemblement national change jour après jour son programme qu'il appliquerait en cas de victoire aux élections législatives. Les adversaires du parti d'extrême droite dénoncent des incohérences. Et puis on reviendra en fin de journal sur le décès d'une grande actrice française, Anouk Aimé, est morte ce matin à 92 ans.
La Corée du Nord, impatiente d'accueillir Vladimir Poutine.
Pour la première fois depuis l'an 2000, année de son arrivée au pouvoir, le président russe doit se rendre à Pyongyang. Déplacement très rare, Vladimir Poutine les limite depuis la pandémie de Covid et le début de la guerre en Ukraine. La capitale nord-coréenne séparée des couleurs russes, avec au programme de ce déplacement, visite de concerts, des spectacles, visite d'une église orthodoxe donc. Célio Fioretti, vous êtes notre correspondant régional basé à Séoul. Pour l'heure, le président russe se fait attendre après avoir retardé son arrivée.
Oui, Pyongyang est sur son 31 pour l'arrivée de Vladimir Poutine. Pour sa première visite en 24 ans, les rues de la capitale nord-coréenne sont recouvertes de drapeaux russes, portraits à son effigie et messages d'amitié, comme le rapportent les médias russes présents sur place. Événement rare, la télévision nord-coréenne diffuse ce soir un film étranger, en l'occurrence un film russe, sorti en 2020, La dernière frontière, blockbuster racontant la bataille de Moscou en 1941. Tout avait été organisé pour l'arrivée de Vladimir Poutine, qui sera sans doute plus tard que prévu, entre 21 et 22 heures, heure locale. En effet, le président russe en déplacement à Yakoutsk, en Sibérie, a décidé d'y rester un peu plus longtemps, ce qui pourrait raccourcir la visite d'État de 2 jours en Corée du Nord avant de poursuivre son voyage vers le Vietnam. La présidence russe confirme cependant que tous les documents pour de possibles traités et partenariats sont rédigés et prêts à être signés, car les deux chefs d'État entendent approfondir leurs relations, notamment dans le domaine militaire et économique, afin d'échapper aux sanctions internationales.
Merci beaucoup, Célio Fioretti, correspondant de RFI à Séoul. Malgré les sanctions économiques qui cadenassent l'économie russe pour tenter d'entraver son offensive en Ukraine, certains secteurs passent entre les mailles du filet. C'est le cas du gaz russe. Les ventes aux pays européens ont augmenté de 28% sur un an. Pour la première fois, ces importations ont même dépassé celles en provenance des États-Unis. Le carnet de commandes de Gazprom, le géant des hydrocarbures russes, s'est rempli, notamment grâce à la Hongrie, la Grèce, la Slovaquie et l'Autriche, qui profitent de prix attractifs et d'absence officielle d'embargo. L'Union européenne reste en effet complètement dépendante, selon Thierry Bross. Il est spécialiste des questions énergétiques.
Si on regarde en 2019, le gaz russe, essentiellement venant par des gazoducs, représente à peu près 40% de la demande européenne. Aujourd'hui, nous recevons du gaz par des gazoducs qui transitent via l'Ukraine et la Turquie et du gaz via des bateaux. Si on fait la somme de ces deux, il représente aujourd'hui 15% de la demande européenne. Malheureusement, l'Europe ne peut pas se passer du gaz russe pour le moment. L'Union européenne a décidé, je vous rappelle, d'un embargo sur le charbon russe, le pétrole russe, les produits pétroliers russes. Le plan de la Commission européenne ne prévoit d'être en capacité de se débarrasser du gaz russe qu'à l'horizon 2027. Et donc, nous avons quelques années à vivre où, malheureusement, on va continuer à acheter du gaz russe qui finance la guerre en Ukraine.
Thierry Bross interrogé par Agnieszka Kumor.
Le centre et le sud de la bande de Gaza ont encore vécu une nuit rythmée par les bombardements israéliens et les combats au sol.
Le cessez-le-feu réclamé par la communauté internationale et une partie de la population israélienne semble en effet encore loin. Toute cette semaine, des mobilisations sont organisées dans l'État hébreu pour réclamer le départ du gouvernement actuel et le retour des otages retenus par le Hamas depuis les attaques du 7 octobre dernier. Deux mobilisations se sont déroulées hier soir à Jérusalem, l'une au pied de la résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'autre devant la Knesset, le Parlement israélien. Sami Boukhelifa, notre correspondant, s'est fondu parmi les manifestants.
un gouvernement de dictateurs. Un gouvernement de fascistes. Des slogans à la hauteur de la colère qui gronde. Pour Tova, Benjamin Netanyahu et ses ministres d'extrême droite ruinent Israël.
Ce gouvernement est une coalition de nationalistes fanatiques et de religieux qui ne se préoccupent pas de l'intérêt du pays. Ils œuvrent uniquement pour leur communauté.
En pleine guerre, le gouvernement et sa majorité sont en train d'ailleurs d'adopter une loi pour exempter les juifs religieux ultra-orthodoxes du service militaire, obligatoire pour le reste de la population à partir de 18 ans. C'est inacceptable, dénonce Noga, jeune étudiante.
Les juifs ultra-orthodoxes représentent aujourd'hui 20% de la population. Ils ne font pas l'armée. Ils font ce qu'ils veulent. Ils restent les bras croisés et sont financés par le gouvernement grâce à nos impôts. Ces gens refusent de se battre. Ils nous affaiblissent.
Dans la foule, Oren confie participer à toutes les manifestations contre Benjamin Netanyahu depuis des années.
La situation ne fait qu'empirer pour nos otages, pour nos soldats à Gaza et pour la population gazaoui. Tous souffrent à cause d'une guerre qui aurait dû prendre fin il y a bien longtemps, à mon avis.
Samy Bourfi à Jérusalem, RFI.
Et ce matin, lors d'une visite à Beyrouth, l'envoyé spécial du président américain Joe Biden a estimé que l'autre conflit en cours impliquant Israël, celui contre le Hezbollah libanais, avait assez duré. Amos Hochstein qui réclame une désescalade urgente alors que les deux belligérants s'échangent des frappes presque chaque jour à la frontière libano-israélienne. Aux États-Unis, toujours, la Maison-Blanche a annoncé ce matin que Joe Biden comptait mettre en place des mesures de régularisation pour les immigrés conjoints et conjointes de citoyens américains. Cela passerait par l'attribution de permis de séjour et de travail. Environ 500 000 immigrés seraient concernés. À 5 mois de la présidentielle américaine, le dirigeant sortant et candidat à sa réélection tente donc de séduire les électeurs démocrates après avoir pourtant durci les conditions d'entrée sur le territoire américain par la frontière avec le Mexique.
Et nous verrons dans quelques minutes avec notre invité quels pourraient être les effets sur la campagne de Joe Biden de cette annonce donc de mesures pour faciliter la régularisation des immigrés. Autre campagne en France, avant les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet prochain, la campagne qui s'emballe, Paul.
Ouais, à moins de 2 semaines du premier tour, le fragile équilibre de l'alliance de gauche qui se décline dans le choix du Premier ministre éventuel. Pour le choisir en cas de victoire au soir du second tour le 7 juillet, Olivier Faure souhaite un vote des députés du nouveau Front populaire de gauche qui seront élus. La vision du premier secrétaire du Parti socialiste diffère de celle de la France insoumise qui souhaite que le principal groupe parlementaire de gauche fasse une proposition. Le Rassemblement national, lui, se positionne comme le favori de ce scrutin, fort de son succès aux européennes du 9 juin, mais son patron prévient qu'il refusera d'être Premier ministre s'il n'obtient pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Jordan Bardella déclare aussi au journal Le Parisien aujourd'hui en France qu'il ne pourra pas gouverner s'il n'obtient pas assez de sièges. Protégé de Marine Le Pen, il en dit aussi un peu plus sur le programme qu'il appliquerait si jamais il arrivait à Matignon et revient sur quelques points essentiels de la ligne du RN, Pierre-Yves Bonneau.
Ce n'est pas un virage à 180 degrés, mais Jordan Bardella arrondit les angles à mesure que l'hypothèse de son entrée à Matignon se dessine. Plus question de promettre l'irréalisable, le patron du RN distingue ce qu'il ferait dans un premier temps des mesures plus floues qu'il prendrait dans un second temps. Premier acte, le pouvoir d'achat des Français avec la baisse très coûteuse pour l'État de la TVA à 5,5% sur les énergies et le carburant. Des négociations avec la Commission européenne pour déroger aux règles de tarification de l'électricité en vigueur dans l'Union. En revanche, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, mesure phare du RN, n'est plus prioritaire. Dès les premières semaines, il veut rétablir les peines planchers, soumettre à l'Assemblée une loi d'urgence sur l'immigration. Après plusieurs jours de flottement, Jordan Bardella confirme que la réforme des retraites serait bien abrogée à l'automne. Au grand dam de son nouvel allié Éric Ciotti, fervent défenseur de la retraite à 64 ans. Ce début de programme n'a pas manqué de faire réagir le Premier ministre en campagne. Gabriel Attal dénonce les approximations et les reniements de son principal adversaire.
Explication de Pierrick Bonneau. Et puis cette campagne pour les législatives qui s'invite jusque dans les rangs de l'équipe de France de foot. Plusieurs joueurs avaient lancé un appel au vote ces derniers jours. Marcus Thuram s'était même clairement positionné contre le Rassemblement national. Ce matin, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a assuré qu'il garantissait aux joueurs la liberté d'expression, mais que la FFF, en tant qu'institution, restait neutre.
Tout en suivant cette campagne, après avoir déclenché lui-même la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron surveille aussi la situation en Nouvelle-Calédonie.
Dans une lettre adressée aux habitants de l'archipel envoyée ce matin, le président français dénonce une situation qui reste inadmissible alors que les émeutes déclenchées le 13 mai dernier ont fait 9 morts au total. Ceux qui l'ont encouragé devront répondre de leurs actes, prévient le chef de l'État. Selon le Haut Commissariat de la République à présent, le retour au calme s'opère très lentement. L'aéroport international de Nouméa a rouvert hier, mais les nuits restent toujours très agitées. 3500 membres des forces de sécurité sont toujours sur le pont et les finances de l'archipel sont aussi fortement impactées par la crise. Écoutez à ce propos la maire de Nouméa, Sonia Lagarde.
Alors dans la ville de Nouméa, tous les jours, on se dit que la vie est revenue à un état normal, les gens reviennent travailler, les magasins réouvrent petit à petit, mais les nuits restent extrêmement compliquées dans certains quartiers de la ville, et en particulier avant-hier, la nuit a été extrêmement violente sur les communes périphériques, sur Païta, Le Mont d'Or et Dimbéa, des voitures qui restent encore incendiés chaque nuit, donc voilà, la situation elle est quand même pas tout à fait normale. Mais au-delà de ces émeutes, je crois que le point essentiel aujourd'hui, c'est que la Nouvelle-Calédonie est totalement exsangue. Elle est en cessation de paiement, n'est plus capable de payer les collectivités que sont les communes, et les communes ne perçoivent plus rien aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est à sec et que la situation est extrêmement compliquée.
La maire de Nouméa, Sonia Lagarde, jointe par Pierre Olivier.
C'est une loi inédite en Asie du Sud-Est sur le mariage homosexuel.
Après un dernier vote du Sénat, la Thaïlande a adopté aujourd'hui un texte qui permettra aux couples homosexuels de s'unir. Il doit être ensuite présenté au roi pour une entrée en vigueur en fin d'année. Et puis 20 personnes ont disparu dans les inondations qui ont frappé l'ouest et le sud de la Chine ces derniers jours. Alors que la canicule frappe le nord du pays, des pluies diluviennes se sont abattues sur la province du Xinjiang et du Guangdong, où 5 personnes ont été tuées la veille dans des glissements de terrain. À Pékin, la correspondance de Stéphane Lagarde.
Les images reviennent chaque été en Chine, d'abord des pluies diluviennes, puis un torrent marron qui enfle, roule et emporte tout sur son passage. Les scooters, les voitures, les bus et même les habitations les plus fragiles, avec pour finir des villes et des villages submergés par les eaux dont on n'aperçoit plus que les toits et les ponts. Selon l'agence Chine Nouvelle, 4 personnes ont disparu après une inondation soudaine à Shangji, dans le Grand Ouest chinois, mais c'est surtout à Mezhou, à l'opposé sur la carte dans le sud-est, que le bilan est le plus lourd. 5 morts, 15 disparus, selon la télévision centrale de Chine. La rivière Xikou est sortie de son lit lundi, provoquant l'affaissement de ponts autoroutiers et l'isolement de certains quartiers d'habitation. 13 personnes se sont retrouvées coincées dans des villages, les écoles ont été fermées et près de 138 000 foyers privés d'électricité avant que l'eau ne se retire partiellement, laissant apparaître des rues dévastées, jonchées de meubles et de débris charriés par le torrent. En avril dernier, les inondations du siècle dans la province du Guangdong avaient fait 4 morts et 10 disparus. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Enfin, c'était une icône de la nouvelle vague, l'incarnation sur grand écran de l'histoire d'amour entre une femme et un homme. L'actrice Anouk Aimée est décédée aujourd'hui à 92 ans. Bonjour Sophie Torlotin.
Bonjour.
La comédienne largement récompensée avait tourné dans 74 films et séries.
Et oui, et Anouk Aimée a longtemps incarné à elle seule l'élégance à la française. Née Françoise Dreyfus en 1932, elle grandit loin de ses parents pour échapper aux rafles de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a 13 ans quand elle joue pour la première fois au cinéma le rôle d'une adolescente prénommée Anouk. Son nom d'actrice, Anouk Aimée, lui est ensuite soufflé par le poète Jacques Prévert. Visage pâle, cheveux de jais et grands yeux noirs, elle fascine les jeunes réalisateurs de sa génération. Federico Fellini, Jacques Demy, qui lui confie le premier rôle de Lola, puis Claude Lelouch. C'est avec Un homme et une femme, dont on entend la musique, en 1966, qu'elle connaît un succès international. Le film remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes, et elle, le Golden Globe de la meilleure actrice, et une nomination aux Oscars. Après quelques années à tourner aussi à Hollywood, elle se consacre au théâtre. Elle y jouera sans relâche des années 90 à 2014, donnant la réplique aux plus grands acteurs.
Merci beaucoup Sophie Torlotin de la rédaction Culture de RFI. Puis cette dernière information, ils sont plus de 540 000 lycéens à avoir planché ce matin sur la première épreuve écrite du bac en terminale philosophie avec 3 sujets. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? La nature est-elle hostile à l'homme? L'artiste est-il maître de son travail? J'espère que ça vous inspire, Anne Cantner, pour la suite de RFI Midi.
Bah, vous avez 2 heures, Paul, puisqu'on vous retrouve dans 2 heures. On espère avoir votre avis sur l'une de ces questions. Il est 14h15 ici à Paris et tout de suite, on va parler de l'actualité sportive. Bonjour Eric Mamrut.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
On va commencer par parler de l'Euro, de football en Allemagne au lendemain de la douloureuse victoire de l'équipe de France contre l'Autriche. La France est suspendue au nez de Kylian Mbappé.
Oui, c'est la mer rouge quand il saigne le nez du capitaine des Bleus, meurtri hier dans un choc aérien avec le défenseur autrichien Kevin Danceau. Immédiatement remplacé, Kylian Mbappé est allé passer des examens à l'hôpital de Düsseldorf. Bilan, le nez est cassé, mais il ne sera pas opéré. Son indisponibilité n'a pas encore été communiquée. Reste que, selon certaines sources, l'attaquant pourrait disputer dès vendredi le 2e match de l'équipe de France contre les Pays-Bas. Et avec un masque de protection et sans réel risque, c'est ce qu'a confié l'ancien médecin des Bleus à Radio France. Écoutez Jean-Pierre Paclet.
Si l'hématome se résorbait, c'est-à-dire si la circulation dans les 2 cavités nasales se passe bien, on peut jouer avec une protection adaptée. S'il est capable physiquement, et en particulier au point de vue respiratoire, s'il est apte à jouer le match, il ne risque pas de lésion aggravée. Je vous rappelle qu'en 2002, Coupe du Monde au Japon, il y a le capitaine de l'équipe du Japon qui a fait toute la Coupe du Monde avec un masque, parce qu'il s'était fait une fracture du nez 8 jours avant. Donc c'est possible.
Kylian Mbappé, qui avait été à l'origine hier du but contre son camp de l'Autriche lors de la difficile victoire des Bleus 1-0 pour leur entrée en lice dans l'Euro. J'ajoute que Kevin Danceau s'est dit désolé de cette blessure tout en souhaitant un prompt rétablissement au capitaine tricolore.
À suivre aujourd'hui la première journée du groupe F.
4 équipes sur les 24 engagées n'ont pas encore entamé la compétition. Ce sera chose faite ce soir pour le Portugal. Opposé à la République tchèque à Leipzig, les Portugais avec l'inoxydable Cristiano Ronaldo qui a 39 ans va disputer son 6e championnat d'Europe. Il l'avait remporté en 2016, un peu avant à Dortmund. Moment historique pour la Géorgie qui va participer à son tout premier grand tournoi international. L'ancienne République soviétique, devenue indépendante en 1991, s'est qualifiée fin mars à l'issue d'un barrage très serré remporté face à la Grèce. Une énorme joie pour le peuple géorgien et ses joueurs qui, depuis, ont eu un petit peu de mal à redescendre de leur nuage. C'est ce qu'a confié leur entraîneur, le français champion du monde 2006, Willy Sagnol.
Pour les joueurs, vous savez, ça a été très difficile après la qualification en mars de retourner dans leur club et de faire retomber l'euphorie. Il y a eu tellement d'émotions autour de cette qualification. Ils ont vraiment eu l'impression de vivre un rêve éveillé et ils voulaient rester sur ce nuage. Mais à un moment, pour repartir, il a fallu retomber les pieds sur terre, retrouver la routine de l'entraînement. On a beaucoup insisté là-dessus depuis le début du rassemblement. Ça n'a pas été évident au début, mais ça y est, les joueurs sont prêts pour cet Euro, totalement concentrés sur les matchs à venir.
Et le premier match à venir pour la Géorgie de Willy Sagnol, c'est celui face à la Turquie tout à l'heure à partir de 16h temps universel.
En basket, les Celtics de Boston ont décroché cette nuit le titre de champion NBA.
Un sacre acquis haut la main par la franchise du Massachusetts face aux Mavericks de Dallas. 4 victoires à 1 lors de cette finale avec un succès décisif acquis à domicile sur le score de 106-88. Boston logiquement récompensé après avoir survolé la saison régulière dans la conférence Est et lors des playoffs. Les Celtics qui décrochent ainsi le 18e titre NBA de leur histoire. C'est un nouveau record devant les Lakers de Los Angeles. C'est le tout premier sacre pour les stars Jason Tatum et Jaylen Brown. Brown qui décroche également le titre de MVP, de meilleur joueur de ces finales NBA. Boston succède au palmarès aux Nuggets de Denver.
Et puis le Tour de France cycliste prendra l'accent espagnol en 2026.
Il partira en effet de Barcelone, c'est ce qu'ont annoncé ce matin les organisateurs. La grande boucle qui s'était déjà élancée d'Espagne en 1992 et en 2023 respectivement depuis San Sebastián et Bilbao.
Merci Eric Mamrut.
RFI. Le Monde à midi.
On va parler maintenant avec notre invité d'une annonce de Joe Biden attendue dans la journée. On va en parler dans quelques instants. Je vous prie de m'excuser, je n'ai plus du tout d'écran devant les yeux. C'est un petit peu difficile pour moi de vous dire, de prolonger un petit peu cet entretien. Nous sommes en ligne avec Jérôme Viala-Godefroy. Bonjour.
Bonjour.
Le président américain doit annoncer tout à l'heure une mesure très importante, l'une des plus importantes depuis les dernières années, qui doit faciliter la régularisation de très nombreux sans-papiers. Est-ce que ça vous surprend que cette annonce ait lieu maintenant ?
Non, pas vraiment, parce que la question de l'immigration est vraiment majeure dans la campagne actuelle. Joe Biden et son administration ont pris des décisions plutôt conservatrices récemment, en voulant vraiment limiter notamment les réfugiés, la possibilité pour les réfugiés de rentrer aux États-Unis. Et donc, il y avait une pression du côté de la gauche. Et donc, c'est aussi une manière, cette nouvelle loi, ce décret, va permettre aux immigrés illégaux qui sont mariés à des Américains et qui sont aux États-Unis depuis plus de 10 ans, d'avoir un statut qui leur permettra de travailler et de devenir citoyen éventuellement.
Alors tout ça s'inscrit évidemment dans la campagne pour la présidentielle de novembre. Est-ce que ça pourrait effectivement avoir un effet sur le vote Biden dans certains États ?
Alors c'est possible parce que ce que propose Donald Trump, donc son rival aux élections, c'est vraiment quelque chose de jamais vu, puisqu'il propose d'ouvrir même éventuellement des camps pour que tous les immigrés illégaux, toutes les personnes qui sont en situation illégale aux États-Unis soient renvoyées dans leur pays d'origine. Le problème, c'est que une bonne partie d'entre eux, en fait, sont aux États-Unis depuis de nombreuses années, y compris pour certains depuis leur enfance, sont venus avec leurs parents qui sont venus eux-mêmes de façon illégale.
Est-ce que ça peut tout ça peut être vraiment entendu et avoir un effet sur la campagne ? Parce que ça peut paraître un peu contradictoire d'annoncer ce type de mesure, alors que Joe Biden récemment a donné un vrai tour de vis sur les entrées par la frontière mexicaine, par exemple.
Tout à fait. Mais alors, ce qu'on voit dans l'opinion publique américaine, c'est que, en fait, il y a une vision assez partagée et finalement assez équilibrée. D'un côté, pour beaucoup d'Américains, il faut empêcher, faire attention, avoir retrouvé le contrôle à la frontière. Et d'un autre côté, il y a l'idée aussi que, pour ceux qui sont déjà établis, qu'il y ait une façon d'agir et une possibilité pour eux de devenir éventuellement citoyens et de pouvoir travailler de façon légale. Donc en fait, il faut voir que pour ces immigrés qui sont, ces personnes d'origine immigrée illégaux aux États-Unis, ils sont intégrés quand même dans la société. Souvent, ils ont un travail. D'ailleurs, c'est une des obligations qu'ils auront pour bénéficier de ce programme. Donc, ils sont intégrés dans la société. Donc, ça va être compliqué de les renvoyer dans un pays qu'ils n'ont pour certains jamais connu. Donc ça pourrait favoriser effectivement le camp Biden auprès de d'une partie de l'électorat qui connaît ce genre de personnes ou qui les ont dans leur propre famille.
Au point de faire basculer peut-être certains États ?
C'est possible. C'est pour la plupart, ce sont des familles d'origine mexicaine, et dans un certain nombre d'États, on pense par exemple à l'Arizona ou au Nevada, qui sont des États clés. Qui peuvent passer du côté démocrate ou républicain, ça pourrait effectivement avoir un effet.
On a l'impression quand même que Joe Biden marche un peu sur un fil sur cette question migratoire. Est-ce qu'il peut continuer à tenir sa position, sa ligne, pendant 5 mois encore jusqu'à l'élection ?
Alors c'est vrai que c'est compliqué. Ce qu'on voit, c'est que il y a une vraie différence entre les républicains et les démocrates. Les républicains étant devenus beaucoup plus durs contre l'immigration, mais la question, ça va vraiment être pour les ceux qui ne sont ni démocrates ni républicains et qui vont faire l'élection. Donc et là, il y a généralement une vision, comme je vous disais un petit peu, qui est d'être beaucoup plus dur à l'entrée à la frontière, mais par contre d'avoir une possibilité pour ce qu'on appelle les Dreamers aux États-Unis, ce sont ces personnes et notamment ces enfants qui ont été amenés par leurs parents de manière illégale. Donc là, il y a plutôt la population est plutôt en faveur d'un programme qui leur permette éventuellement de devenir citoyens et en tout cas d'avoir un statut qui leur permette de travailler aux États-Unis.
Même s'il reprend un peu la main avec cette annonce, Joe Biden reste quand même contraint de se positionner sur cette question migratoire qui est l'un des thèmes privilégiés des Républicains. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à déplacer le débat sur d'autres thèmes qui lui seraient peut-être plus favorables ?
Alors, il essaye. On sait que, par exemple, l'avortement est une question importante où il y a beaucoup de questions, notamment au niveau local et au niveau des États. Et puis, il y a la question aussi de la fertilisation, enfin, de l'in vitro, qui est devenue une question puisque des groupes religieux, notamment les baptistes, là, récemment, à une convention la semaine dernière, s'est opposé à ces possibilités médicales. Et donc l'idée de pour les démocrates, c'est d'essayer effectivement de reprendre la main en mettant en avant ces questions individuelles, de liberté individuelle, et d'en faire vraiment un enjeu. La question, ça va être, est-ce qu'ils vont y arriver effectivement ou pas? Ça, c'est là où les choses vont se jouer dans les prochains mois.
Merci Jérôme Viala-Godefroy d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes, j'annonce même que vous êtes chargé de cours, parce que je n'ai pas pu le dire tout à l'heure, chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et spécialiste de la politique des États-Unis. Merci.
Merci.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Reportage en Côte d'Ivoire à présent. Derrière le football, à l'honneur depuis la CAN remportée en février, le taekwondo est le deuxième sport le plus populaire du pays. Près de 64 000 Ivoiriens le pratiquent aujourd'hui et nombre d'entre eux ont rejoint les tatamis en suivant les exploits de Cheikh Cissé et de Ruth Gbagbi. À eux deux, ils représentent les trois quarts des médailles olympiques de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils s'entraînent en Espagne, à Majorque, et rêvent d'un doublé aux Jeux olympiques de Paris. Reportage, Yoann Gourlet et Martin Guez.
Bien reposé, là, la semaine peut commencer. Prêt à aller à l'entraînement, prêt à entamer une grosse semaine.
Ouais. Bah on va vous suivre, vous allez me montrer tout ça ?
On va par là. Ouais.
Je vous aide, non ?
Après une nuit de sommeil, les choses sérieuses commencent.
Ouais, c'est gentil.
On va arriver 10 minutes avant l'entraînement.
Bonjour, vous allez bien ? Ça va et toi ? Martin, moi c'est, et Yuen est là.
Dans cette petite salle mallorquine, nous retrouvons l'autre icône du taekwondo ivoirien, comme Cheikh Cissé. Elle a 30 ans, elle est championne du monde. Voilà Ruth Gbagbi, par ailleurs double médaillée de bronze aux Jeux Olympiques. Ruth Gbagbi et son gros pull.
Ruth, vous restez en pull pour la séance, c'est pour transpirer ?
J'ai toujours besoin de plus transpirer, si je peux le dire ainsi. Vu que ma catégorie... Et moi, j'ai 67 et je suis autour de 70 kilos. Donc, c'est toujours bien de transpirer un peu plus et tout. J'ai l'habitude. Mais c'est pas difficile.
Tu t'es trouvé comment aujourd'hui, toi ?
Bien, bien. On travaille bien et voilà, on se sent bien. Non, à vrai dire, je suis pas fatiguée et je prends vraiment plaisir.
Tu vis taekwondo, tu manges taekwondo.
C'est ça.
Merci.
Ça n'a l'air de rien, mais ça travaille le cardio, ça travaille tout le corps. Et c'est quand même assez difficile.
Oui, elles ont l'air lourdes, ces cordes.
C'est. Elles ont l'air lourdes, hein. Vous pouvez essayer.
Oui. Voilà.
Ah non, je suis mieux ici. J'ai été champion olympique étant en Côte d'Ivoire. Donc il y a tout en Côte d'Ivoire, mais mon objectif, ce n'était pas d'être champion, c'était de demeurer champion, vous voyez. Et je pense que je le fais. Ça fait 10 ans que je suis sur le toit du monde, numéro 1 mondial, champion du monde. Et je pense que c'est par rapport à cette exigence-là que j'ai pu faire ça.
Reportage de Yoann Gourlet et Martin Guez à retrouver dans notre émission Grand Reportage disponible sur l'application RFI Pure Radio. Vous le savez, vous y retrouvez aussi toutes nos informations. Restez avec nous sur RFI. Dans une minute, Afrique Midi.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau hip-hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
RFI. Retrouvez RFI sur WhatsApp.
Vous pouvez recevoir l'essentiel de l'actualité internationale sur votre application de messagerie et réagir aux informations. Pour vous abonner, rendez-vous sur l'application WhatsApp dans la rubrique Actu. Tapez RFI dans la barre de recherche, demandez à suivre notre chaîne et activez les notifications.
La chaîne WhatsApp de RFI, c'est à retrouver sur votre téléphone mobile.